Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1. Aujourd'hui, on va parler du Grand Prix du Mexique, évidemment, qui est le dernier Grand Prix en date. Il va en rester deux après celui-ci, donc le Grand Prix du Brésil et le Grand Prix d'Abu Dhabi, fin novembre, et oui. Et à l'issue de ces Grands Prix, eh bien, comme vous le savez sans doute, Analyse F1 passera un format mensuel. Si ce que je vous dis vous surprend, si vous tombez des nues, je vous invite à aller écouter le dernier podcast qui était à propos de la suite, de l'avenir d'Analyse F1, l'avenir proche du podcast, et pour que vous sachiez tout, vraiment tout, les raisons, ce que ça va impliquer, mes motivations et tout, et pour que vous puissiez comprendre, au moins, même si après vous décidez de ne plus être au rendez-vous de la F1 avec moi, et bien au moins que vous compreniez, voilà, les raisons, c'est le but, hein, mon but c'est d'être le plus transparent possible avec vous, parce que c'est à vous que je propose ce podcast, même si je m'amuse beaucoup à le faire, mais je m'amuse beaucoup à le faire parce que il y a du partage avec des gens, avec des auditeurs, et donc ça me paraît normal que envers vous, je sois le plus franc possible et le plus tôt possible, parce que j'aurais pu le faire également juste avant de changer le format, mais là cette fois-ci j'ai pris le temps de la réflexion assez tôt et de la décision surtout, et donc voilà, comme ça je suis bien préparé, vous êtes bien préparé, et on peut passer de nouveau des bons moments autour de la F1. Et tout de suite, on va en passer quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns lors du Grand Prix du Mexique, des bons moments. Ah, pas trop des bons moments, hein. J'ai pas retenu vraiment des bons moments. Surtout des moments un peu chiants, déjà chiants à analyser. J'aimerais ne pas avoir à parler de ça, parce que c'est pas des trucs hyper joyeux, c'est pas des dépassements de fou, comme la semaine dernière j'avais parlé de... Je sais plus quel dépassement, mais j'en avais parlé. Ou des stratégies bien menées et tout. Non, bon, il y a eu des choses qui ne m'ont pas plu durant ce Grand Prix pour plusieurs raisons, et ça m'invite aussi à revenir sur des thèmes abordés, des thèmes fil rouge d'Analyse F1. Bon, tout d'abord, on va pas rentrer trop dans le dur, hein, des débats, des incidents, des pénalités, tout ça. On va commencer par parler de la victoire d'Hamilton, parce que ce qui est le plus important, bon, peut-être pas dans cette course, mais sur tout le long du championnat, ce qui est le plus important, c'est la lutte pour la gagne de celui-ci, entre Hamilton et Rosberg, donc. Et dans cette lutte, Hamilton a été impérial lors du Grand Prix du Mexique. Il a bien géré le restart du safety car, bon, le premier départ arrêté, il a dû tirer large, mais sans conséquence pour lui, heureusement. Et après, il a bien géré le restart parfaitement, hein, même c'était plus Rosberg qui était sous la pression que Hamilton sous la pression, et ensuite il a géré, que ce soit en termes de rythme de course, d'avance et tout, gestion des pneus. Bon, Hamilton n'a pas été inquiété du tout durant ce Grand Prix, et il a pu conquérir une nouvelle victoire, sa 51e je crois de sa carrière, si je ne me trompe pas. Est-ce que je confonds avec un autre chiffre, je ne sais plus. Je ne sais plus si je confonds avec un autre chiffre, je ne crois pas. Enfin bref, il a égalé Alain Prost au nombre de victoires avec celle-ci. Et donc il se retrouve surtout qu'à 19 points de Rosberg. Alors qu'est-ce que ça implique, être à 19 points de Rosberg? Eh ben, c'est un peu entre deux eaux. D'un côté, Hamilton est à portée de Rosberg vu que il est à moins de 25 points de celui-ci. Donc en cas d'abandon de Rosberg, Hamilton peut repasser devant ou revenir très 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 proche, et donc il y aurait vraiment une grosse finale à Abu Dhabi. C'est ce qu'on attend, hein. C'est ce qu'on attendrait, quoi. Enfin, c'est ce qui est le mieux en termes de suspense. Après, si ça se passe pas, ben tant pis, hein, c'est comme ça, c'est le sport. C'est le sport, faut l'accepter aussi, savoir bien acclamer le vainqueur, quel qu'il soit. Et c'est ce que ça va être. Rosberg peut également être titré dès le Grand Prix du Brésil, dès Sao Paulo. Pourquoi? Parce que 19 points également, s'il remporte le prochain Grand Prix et que Hamilton finit deuxième, eh bien il y a 7 points d'écart entre le premier et le deuxième, et donc 19 plus 7 égale 26 points, et donc ben le compte est bon. Rosberg serait donc champion du monde de Formule 1. Donc c'est vraiment une course très importante. Je pense qu'il va y avoir pas mal de tensions. Hamilton, il est dans, bah là, il a plus à se retenir, quoi. Il se retient plus. Et d'ailleurs, ça se voit dans ses déclarations. Il est totalement libéré, on va dire. Il n'y a pas de poids. Là, il sait qu'il doit tout donner, qu'il n'a rien à perdre, véritablement. Il a tout à gagner là-dessus, parce qu'il sait que si le titre il l'a perdu bien avant. Même si, bon, dans ses déclarations, il met surtout en avant la fiabilité, on va dire, les ennuis moteurs. Mais bon, faudrait qu'il mette en avant également les soucis au départ. Et il y en a eu beaucoup. Et on peut pas oublier ça. Il peut pas oublier ça. D'ailleurs, je pense qu'avec le recul, il pourra pas oublier ça. Mais bon, il essaye de garder la tête haute et de, voilà, pour maintenir aussi, voilà, le championnat est encore en jeu. Donc, c'est pas le moment de montrer des faiblesses et de montrer ses faiblesses. C'est le moment de, au contraire, ben, montrer que sa force et d'essayer de mettre une pression psychologique sur Rosberg par tout moyen, que ce soit en piste, hors piste, etc. À mon avis, voilà, c'est très important. Rosberg aussi, il est malin dans ce petit jeu cette saison, je trouve. Très, très, très malin. Très aussi relax. Donc là, on a deux pilotes, je trouve, assez relax, en tout cas publiquement, dans leur manière d'être, dans leur comportement, dans leur langage corporel. Ils sont plutôt bien, je trouve. Et donc, en piste, ils sont au meilleur de leur forme, hein, en ce moment. Donc, on peut s'attendre à une belle bataille, à une belle bataille lors des deux derniers Grands Prix de la saison. À voir ce que ça va donner. Là, je ne saurais dire, franchement, je ne saurais dire. Ensuite, j'aimerais vous parler de la stratégie de Sébastien Vettel, qui, selon moi, voilà, était plutôt très bonne, la stratégie de Ferrari. Alors, son but, ça a été de tenir les pneus tendres, et il les a tenus avec un très bon rythme, c'est-à-dire qu'il a retardé le plus possible son premier arrêt au stand. Et donc, alors que d'autres s'étaient arrêtés avec il y avait des pneus plus frais, eh bien Vettel a pu tenir une grosse dizaine de tours avec des pneus vraiment usés et avec le même rythme que ceux qui étaient derrière lui. Et il était en tête de la course pendant un moment, pendant un gros moment, je crois même plus de 10 tours, hein, c'était peut-être 20 tours, je ne sais plus. Mais en tout cas, pendant très très longtemps. Très belle gestion des pneus de la part de Vettel, très belle gestion des rythmes et très bonne stratégie de la part de Ferrari, qui n'a pas attendu que la performance chute drastiquement. Ils ont juste attendu le moment où la performance chutait légèrement, c'est-à-dire le moment où vraiment là ça allait être très chaud, en tenant compte également des informations que leur fournissait Vettel, évidemment. Mais donc l'arrêt au stand a été effectué au bon moment, alors qu'il commençait à perdre 3-4 dixièmes à chaque secteur, pardon. Là il s'est arrêté. Et c'était juste avant vraiment une grosse chute de performance. Et il a embarqué des médiums, du coup. Des médiums qui ont eu à faire moins de tours que les concurrents. Et parmi ses concurrents, Vettel certains ont dû faire un deuxième arrêt, comme Ricciardo qui s'est arrêté très tôt en course au deuxième tour et qui n'a pu tenir ses médiums jusqu'à la fin du Grand Prix. Au contraire de Marcus Ericsson et Julian Palmer qui ont pu les faire tenir, je crois, 69 tours hein, sur 71, un truc comme ça. Donc grosse mention à eux, parce que je n'en reparlerai pas dans ce Grand Prix de ces deux pilotes. Mais Ericsson, 11e avec sa Sauber, c'était une très bonne performance, preuve que il a su mener la stratégie de Sauber au point. D'ailleurs, Sauber, bah, j'en reparlerai à l'intersaison, parce que bah, ça s'est bousculé dans la saison, ça s'est bousculé là. Récemment, il y a quelques nouveaux trucs qui pourraient avoir des conséquences positives sur 2017. Bon, et aussi, bon, malheureusement, ils ont fait des trucs pour qu'il y ait des conséquences positives, mais bon, aussi, il y a autre chose qui fait que, eh ben, ça aura peut-être servi à rien. Enfin, bon, j'en reparlerai, je vais pas être tout détaillé, c'est perdre du temps. Donc, du coup, Vettel avec des médiums bien plus neuf que ses concurrents, et bien quand la course a été bien avancée et que les pneus médiums étaient bien usés de la part des concurrents du pilote Ferrari, et bien il a pu remonter dans les 15 derniers tours en particulier, et pour s'adjuger théoriquement ou peut-être pas un podium. Tout d'abord non, parce qu'il a fini quatrième, et puis ensuite Verstappen, j'en reparlerai, a eu une pénalité de 5 secondes, du coup Vettel 3e, mais Vettel enfin quelques heures après, il a été pénalisé de 10 secondes de pénalité, 10 secondes suite à la bataille avec Ricciardo. J'en reparlerai aussi, c'est obligé. Et ben du coup, Vettel 5e, mais en tout cas, la stratégie était là, le rythme était là, le pilote était là, bref, il y avait tout de bon là chez Vettel, sauf peut-être sa perte de sang-froid. J'en reparlerai aussi, il faut parler de plein de choses négatives, mais bon, on va essayer de le faire dans le calme. On va essayer de rester calme et zen. C'est parfois compliqué quand même quand il y a des choses comme ça qui arrivent en F1, mais on va essayer. Après, juste pour finir sur Ferrari, toujours dire que ouais, certes le rythme de Ferrari était très bon ce week-end-là au Mexique, mais c'est une course assez spéciale au niveau des conditions. Tout d'abord, ben, on est en altitude, ensuite il y avait le climat qui était assez particulier avec des températures fraîches qui ont alterné avec un moment avec des températures un peu plus chaudes. Bref, pour trouver les bons réglages, c'était dur. Les conditions de piste étaient changeantes, que ce soit au niveau de la... Bon, pas trop de la température, mais surtout au niveau de la poussière et de la saleté de la piste. De la piste glissante parce que la piste n'est jamais utilisée ou très rarement durant l'année. Je crois qu'il y a que la Formule E qui a roulé dessus un peu et encore que sur une certaine portion du circuit, pas toute. Donc ouais, c'est assez spécial. Donc le rythme de Ferrari a relativisé, sachant que voilà, Red Bull de manière générale est supérieur en cette deuxième partie de saison et très largement. Bon, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, on va parler de l'incident entre Verstappen et Vettel. Alors, Verstappen était sous la pression de Vettel, alors que Vettel remontait en pneu médium, donc je l'avais dit dans les 15 derniers tours. Et alors que Vettel était dans l'aspiration de Verstappen, avait actionné le DRS et tout, et allait porter un semblant d'attaque, mais Verstappen a cédé sous la pression, on va dire. Il a vraiment cédé sous la pression et a bloqué ses roues au premier virage. Et donc est parti tout droit et n'a repris la piste qu'après le virage 3 en fait. Parce que il faut savoir qu'il y a une zone de dégagement et une zone de pelouse, on va dire, de pelouse qui ne fait pas perdre de temps, quoi. Très 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 près du sol. Enfin, elle est taillée très près du sol, cette pelouse. Et avec la zone de dégagement, et du coup, ça permet de sortir après la chicane, donc de ne pas perdre du temps et même d'en gagner. Et donc il y a eu une pénalité pour ça de la part de Verstappen. Verstappen qui n'a pas voulu laisser passer Vettel tout d'abord, alors que son équipe lui intimait un peu de le faire, lui conseillait de le faire pour pas choper de pénalité. Verstappen ne l'a pas fait. Ce qui est déjà assez anti-sportif. Bon, j'ai vu certains pilotes, on a vu dans le passé, hein, il y a des exemples de pilotes qui, après avoir coupé à la chicane, n'ont pas attendu 3 heures avant de laisser passer. D'autres qui ont attendu le message radio, mais qui l'ont fait, histoire de pas se prendre une pénalité. Verstappen a choisi de ne pas le faire, parce que bon, il savait que s'il ralentissait ou quoi, il a pas ralenti de lui-même parce qu'il savait qu'il allait se faire dépasser. Et il s'est pas laissé passer parce qu'il savait qu'il était avec des pneus plus vieux et qu'il pourrait pas, il pourrait pas retenter quelque chose sur Vettel par la suite, vu que Vettel avait des pneus plus frais. Ça paraissait compliqué, alors que la défense sur ce circuit de Mexico, eh bien la défense est plus aisée parce qu'il y a pas trop, il y a peu de moyens de dépasser, il y a pas trop d'endroits, il y a peu d'endroits, et du coup avec des pneus usés, on peut essayer de défendre. Donc bon, Verstappen a fait ce choix risqué, ce qui a passablement énervé Vettel. Vettel qui à la radio a donc insulté Verstappen, a vraiment insulté. Grosse frustration de la part de Vettel suite à tout ce qui s'est passé cette saison, évidemment le fait que Verstappen soit pas pénalisé jamais cette saison, alors que ses manœuvres étaient très dangereuses et désapprouvées par la majorité des pilotes, et notamment les pilotes de pointe, les pilotes champions du monde, et dont Vettel, évidemment, fait partie, vu qu'il est quadruple champion du monde. Et donc, ensuite, il y a une discussion entre l'ingénieur de Vettel et Vettel, et ça parle de Charlie Whiting, évidemment, le directeur de course, qui gère donc, qui peut agir en faveur ou défaveur d'une pénalité. Et donc Vettel, excédé par la situation d'être bloqué derrière Verstappen qui a coupé vraiment deux virages quoi de façon assez claire, qui ne l'a pas laissé passer et qui ne le laissait toujours pas passer, et il n'y avait pas de pénalité qui pointait à l'horizon pendant la course, alors que c'est vrai, on a vu des cas où ça allait plus vite à ce niveau-là. Et du coup Vettel a insulté Charlie Whiting en lui disant d'aller se faire foutre tout simplement, et également il y a eu des discussions qui n'ont pas été diffusées à la télé, parce que ça, d'aller se faire foutre, oui, ça a été diffusé à la télé, mais il y a eu d'autres insultes où bon envers Charlie Whiting, pas besoin de les répéter, mais il y a eu des insultes quoi assez fortes. Vettel très frustré, très en colère. Je pense qu'il y a une accumulation, il y a tout qui joue là-dessus, il y a tout. D'une part, toute la saison, Verstappen est impuni. Ça énervait Vettel. Et là, c'est en face de lui. On est en fin de saison, donc le gros ras-le-bol. Ensuite, il y a le fait que il n'y ait pas de zone de dégagement. Enfin, qu'il y ait des zones de dégagement, au contraire, mais qu'il n'y ait pas de zones qui ralentissent à l'extérieur des virages. Et donc, ça a permis également ce genre de passe-passe, ce genre de raccourci, on va dire. Et du coup, ça donne lieu à ce genre d'ineptie qui n'a pas lieu d'être en sport automobile, mais et qui du coup donne lieu à des situations assez ubuesques où on se demande s'il faut mettre une pénalité ou pas. Et s'il y avait des zones, on va dire normales à l'extérieur du virage qui ralentissent les pilotes, eh bien, il y aurait pas ça. On n'aurait pas à se poser la question. Donc il y a un peu tout. Il y a un peu une accumulation de tout là qui a fait, et puis aussi l'adrénaline, on est en fin de course, je rappelle, Mexico, il me semble qu'il y avait pas mal d'humidité, mais bon, c'est pas le circuit le plus physique hein, de la saison, ils les ont passés hein, dans le passé, mais on est vers la fin de course. Vettel, voilà, grosse adrénaline, il y a un podium en jeu, une stratégie bien mise au point et tout. Il y a aussi une accumulation du fait que Vettel sûrement est déçu de ne pas avoir une voiture qui puisse lutter pour la gagne. Lui qui est quadruple champion du monde, évidemment, il en veut toujours plus, c'est normal. Donc voilà, vous prenez tout ça, vous y mettez dans un mixeur, vous mettez ce mixeur dans la tête de Vettel, vous secouez, et voilà, ça fait ça. Alors je n'essaye pas d'excuser Vettel, évidemment, ce qu'il a fait. Les insultes, c'est un manque de sang-froid, il est quadruple champion du monde, il est censé montrer un minimum d'exemple, donc ça... C'est très moyen ce qu'il a fait. Il s'est excusé juste après quand même, de manière assez assez volontaire, juste après la course, juste après le podium, il allait s'excuser face à face avec avec Charlie Whiting, et ils se sont parlé les deux hommes. Donc ça c'est bien, ils se sont vus face à face. Et ensuite, afin de ne pas prendre de grosses pénalités, ça aurait pu être une lourde pénalité qui peut aller jusqu'à la disqualification si on en croit le règlement, la disqualification sur un Grand Prix. Enfin non, pas la disqualification, l'interdiction de courir sur un ou deux Grands Prix en fin de saison. Et bien pour éviter ça. Parce que on va dire que Red Bull a mis de l'eau dans le gaz et a voulu s'en mêler. Et bien du coup Vettel a dû faire des lettres d'excuses à la fois à la FIA et à Charlie Whiting par la même, parce que voilà, la FIA aussi, il y a un jeu politique là-dessus, c'est que la FIA s'est insultée par Vettel, et la FIA veut avoir la mainmise, on va dire, sur son sport, ne veut pas. On l'a vu hein, plutôt dans la saison, quand il y a eu la lettre du GPDA, on voyait bien que la FIA était assez méprisant envers les pilotes, et en gros on leur disait, ben vous, votre boulot c'est de piloter, nous c'est de faire des règlements, on vous voit pas trop lors des meetings qu'il faut, bon ça il y a plusieurs explications à ça, mais en tout cas la FIA était, on va dire, ne voulait pas trop, on va dire, mêler les pilotes au processus de décision, malgré le volontariat qui était noble hein, de la part des pilotes de F1 pour essayer d'aider la FIA à améliorer le sport et pour les règlements, mais la FIA vraiment voilà veut la mainmise, veut pas que les pilotes s'en mêlent, et là c'est un autre exemple également que la FIA veut pas se sentir affaiblie. Et bon après et du coup la FIA a adressé une note en disant que bon, pour cette fois Vettel, il est pas dit, il y aura pas de punition aucune hein, même pas une amende ou quoi. Pour moi, l'amende, c'est la meilleure punition sur ça, hein, sur ce genre de truc. Parce que infliger une pénalité qui a trait à la course, pour moi, ça n'a pas lieu d'être, mais Une amende, pourquoi pas, ouais. Moi, je suis plutôt pour. Mais ils ont dit que la prochaine fois qu'il y aurait ce genre de truc, voilà, il y aurait une pénalité. Donc voilà, la FIA réaffirme sa suprématie, on va dire, son emprise sur la F1. Et du coup, voilà, bon. Vettel, donc, a été pénalisé, mais pour autre chose, hein, dont je reparlerai tout à l'heure. Mais il y avait un autre débat, c'était Verstappen a été pénalisé, mais pourquoi Hamilton au premier tour n'a pas été pénalisé? Alors la FIA a porté, enfin la direction de course, qui est un peu la FIA, hein, a apporté ses explications et a dit que la télémétrie a révélé qu'Hamilton a ralenti après avoir coupé délibérément. Bah, d'ailleurs, ça se voyait un peu quand même avant même qu'il y ait le Virtual Safety Car, on voyait que à la sortie de la chicane, on voyait bien qu'Hamilton était en faible vitesse, quoi, et qu'il attendait un petit peu que les autres reviennent derrière. Alors les mauvaises langues diront que Hamilton a vu que Rosberg et Verstappen se bataillaient et que de toute façon, du coup, il n'y avait aucun risque qu'il se fasse dépasser à ralentir. Ben, moi, je pense que il était loin de regarder ça. Hein. Franchement, au départ, enfin, il est en train de, il vient de, comment dire, de bloquer ses roues, de tirer large, et il est concentré sur là où va la voiture, hein, pas sur ce qui se passe derrière à ce moment-là. Ça, c'est clair. En plus, bon, il y a ce fait-là que à la télémétrie, ça a montré qu'Hamilton a ralenti assez, suffisamment. Ensuite, il y a eu le début de... c'est un début de course, donc c'est un moment particulier, ça n'a rien à voir avec Verstappen qui va essayer de dépasser Vettel. Non, Vettel qui va essayer de dépasser Verstappen, on va dire, qui est en pleine course, on va dire. Là, c'est un début de course, donc forcément, il y a de la bataille devant. Bon, c'est un moment particulier. Et en plus, autre argument, là que j'avance, hein, derrière Hamilton, il y avait les deux hommes que sont Rosberg et Verstappen qui se bataillaient. Donc de toute façon, ça a rien fait, ça a peu fait gagner à Hamilton de faire ça. Et en plus, je pense que ça aurait été bien plus dangereux qu'Hamilton tente de regagner la piste. C'est-à-dire qu'il freine, qu'il tente de regagner la piste sans couper, on va dire. À mon avis, ça aurait été plus dangereux parce qu'il se serait retrouvé à une vitesse hyper lente. Et après, il y aurait eu un effet entonnoir parce qu'à la chicane, évidemment, il y aurait eu un effet entonnoir. Ça aurait été dangereux pour tout le peloton. Donc bon, c'était, je pense, la moins pire solution quand tu bloques au premier virage. La meilleure aurait été qu'il bloque pas les roues au premier virage, ça c'est sûr. Mais encore la meilleure, ça serait qu'il n'y ait pas de zone qui permette ça. C'est-à-dire que les pilotes soient plus prudents au premier virage, quitte à perdre une position, ou qu'ils prennent le risque mais qu'ils l'assument, mais que s'ils font une erreur, ou si les roues bloquent, eh ben, ils en payent le prix. Bon, là, ils n'en payent pas le prix, mais c'est pas, est-ce que c'est de la faute d'Hamilton? Non, bah là, c'est, moi je dis, il y a toutes les circonstances, il y a tous les arguments qui montrent que Hamilton n'a pas à avoir de pénalité. Après, il y a un argument qui montre qu'il doit peut-être avoir une pénalité, c'est peut-être le règlement. Et oui. Et si on s'attache qu'au règlement, peut-être, c'est sûr, mais bon. On peut l'interpréter comme ça, mais le problème, c'est que c'est sujet à interprétation. C'est n'importe quoi. Il y a des pilotes qui avaient dit qu'ils comprenaient pas qu'Hamilton n'avait pas été pénalisé. Bon, ils n'avaient pas tous les éléments en main, comme la télémétrie et tout, mais bon, ils comprenaient pas. Il y en a d'autres qui comprenaient pas parmi les observateurs, évidemment. Ouais, évidemment, si tu lis que le règlement, tu te dis, ben, ouais, pourquoi? Pourquoi? C'est vrai que là, il gagne un avantage. Il laisse pas passer ceux de derrière, mais bon, quand tu regardes tous les facteurs, tu te dis, bon, ben, c'est logique. Il faut regarder tous les facteurs vraiment pour vraiment se rendre compte. Pour vraiment se rendre compte de la décision qui a été prise. Mais c'est de la faute de la FIA de se retrouver dans des situations comme ça en faisant un règlement trop et pas assez fourni, quoi. Enfin, je vais en reparler après, de toute façon, parce que ça concerne également l'incident qu'il y a eu entre Vettel et Ricciardo. Donc voilà, et ça finira le podcast, cet incident entre Vettel et Ricciardo, mais il faut en parler quand même longuement. Donc Ricciardo, finalement, a terminé troisième, hein, comme vous l'avez compris sûrement, au jeu des pénalités, et Vettel cinquième. Et en plus, ce qui est assez ironique, on va dire, l'ironie du sort, c'est qu'il se prend 10 secondes de pénalité, quand même, 10 secondes, hein. Alors que déjà que Verstappen n'en prend que 5, alors que bon, toute son œuvre pendant le Grand Prix est assez horrible, que ce soit dans les attaques Les attaques désespérées sur un mec qui est leader du championnat du monde et qui est encore en lutte. Il y a encore une lutte pour le championnat du monde. Et aussi au premier virage où il vient taper Rosberg. Ça, c'est... Je suis pas contre. Allez, je vais faire un petit laïus là-dessus. Je suis pas contre lutter contre les mecs qui jouent pour le championnat du monde. Verstappen, il fait sa course. Ok. Mais quand il y a une lutte pour le championnat du monde et qu'on approche la fin de saison, il y a, on va dire, une règle tacite qui veut qu'on s'en mêle pas trop. S'il dépasse, en fait. S'il est amené à dépasser Rosberg, ça doit vraiment être un truc net, sans bavure, et il n'y a pas à discuter. C'est pas un truc où il va prendre un risque. Et les deux fois, là, premier virage, il prend le risque. Rosberg, qui est obligé de sortir un peu de la piste, il aurait pu abandonner hein, sur cet incident. Ensuite, deuxième tentative, plus loin dans la course, où là, il plonge à l'intérieur, il bloque ses roues, il a deux doigts de partir en tête à queue, Verstappen. Rosberg, heureusement, attend que Verstappen ait fait sa manœuvre. Ok, tu pars large, mon coco. Moi, je repasse devant. Heureusement, mais ça c'est pas digne d'un pilote qui est censé être mature. Donc bon, et du coup il se prend que 5 secondes de pénalité ensuite pour cette histoire de d'avoir coupé tout droit. Vettel s'en prend 10, comme ça, bon 5, 10, c'est au pif, hein, bon, on sait pas. Il se prend double fois le nombre de pénalités, bon. Et en plus, ce qui est ironique, voilà ce que je disais, c'est que il s'est pris ça sur le fondement de la règle anti-Verstappen, Vettel, hein, alors que lui avait été bien militant de cette règle. Alors bon, je vais raconter ce qui s'est passé. Donc, il y a la deuxième ligne droite DRS. Attends, c'est bien la deuxième ligne droite DRS, celle-ci? Ouais, c'est la deuxième ligne droite DRS. Et après, il y a un virage à gauche à 90 degrés, où du coup, on peut tenter un dépassement parce qu'il y a un freinage assez fort. Ricciardo est dans l'aspiration de Vettel parce que Vettel étant bloqué derrière Verstappen, c'était après que Verstappen ait fait son truc et coupé le virage, Vettel est derrière et du coup il perd du temps derrière Verstappen qui a ses pneus qui sont en déliquescence. Et du coup Ricciardo peut revenir parce qu'il a des pneus beaucoup plus frais, la stratégie à deux arrêts finalement a plutôt bien marché. Et pour preuve, il est monté sur le podium hein, finalement. Enfin, il est monté sur le podium. Il a une position qui... Enfin, il a fini troisième finalement, Ricciardo, après coup. Du coup, voilà, il remonte, il est derrière Vettel, et puis il prend l'aspiration, DRS ouvert, et puis il se décale assez tôt pour faire l'intérieur. Vettel, bon, ne voit pas de prime abord Ricciardo aller lui faire l'intérieur. Du coup, il se décale un petit peu sur la gauche. Presque sur Ricciardo, mais pas complètement. Il va pas aller le bloquer devant lui, alors que Verstappen, on l'a vu bloquer devant lui. Vettel, voilà, il va à gauche, il voit qu'il y a Ricciardo, du coup il s'arrête. Ça se voit en plus, ça se voit très clairement. Franchement, il n'y a même pas besoin de la télémétrie. Il y a juste besoin d'un ralenti. Et encore, à vitesse réelle, on y voit. Vettel, il se décale un peu à gauche, il voit qu'il y a Ricciardo qui essaie de le dépasser, il remet un petit coup de volant à droite pour lui laisser la place. Et il lui a laissé la place. Et d'ailleurs, bon, après il se touche un peu, mais je me demande s'il n'y avait pas eu Vettel, si Ricciardo faisait le virage, hein, vraiment. Donc bref, Ricciardo ne peut pas dépasser Vettel du coup. Vettel qui est à l'extérieur et qui a une meilleure traction, et puis surtout l'extérieur de ce virage, ben ça signifie être à l'intérieur du virage suivant. Donc Vettel reste devant et Ricciardo finalement ne peut pas dépasser le pilote allemand. Du coup Ricciardo ça l'énerve vraiment cette situation parce que voilà il estime que Vettel a fait la même chose que ce qu'on a reproché à Verstappen avant. Pour moi c'est différent mais compte tenu de la clarification de la réglementation c'est pareil. Et oui et là je vous ramène à un tweet. Il y a une publication sur les réseaux sociaux que j'avais mis il y a le 22 octobre, je crois. Exactement, le 22 octobre. Vous pouvez aller regarder, hein, je l'ai mis. Hein. Le 22 octobre, je mettais que j'étais content de la clarification du règlement, c'est-à-dire la règle anti-Verstappen, parce que oui, j'en avais peut-être pas parlé dans l'analyse F1, mais enfin, les mouvements de Verstappen sont proscrits, qu'il a fait tout au long de la saison, on va dire, plusieurs fois. Les décalages en zone de freinage, en gros, les décalages en zone de freinage sont interdits. Seulement, j'avais peur d'un truc, c'est l'interprétation de cette clarification du règlement. Qu'est-ce que ça englobe? Et en effet, ce n'était pas assez précis cette règle, parce que si ça englobe également de se décaler un petit peu et puis qu'après de rattraper, on va dire, l'erreur. Moi, je comprends pas, je comprends pas. Bon, ça rentre dans le champ du règlement, donc c'est normal que Vettel soit pénalisé si on se base là-dessus, mais dans la logique de la course, non, non. Il devrait pas être pénalisé du tout. C'est encore une fois, c'est très négatif. Et c'est très négatif de voir un podium qui est faux. Et doublement surtout d'ailleurs, Verstappen qui entre dans la cool room, la salle de détente avant le podium. Ensuite, on lui dit ben mon coco. Enfin, il voit qu'il a eu une pénalité. Du coup, on lui dit bon ben ouais, il faut que tu voilà, il faut que tu sortes parce que c'est Vettel qui est troisième. Et puis après la après le podium et tout, on apprend que c'est plus Vettel qui est troisième. On est où là? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc soit la FIA décide d'aller jusqu'au bout dans sa logique actuelle et tente de réglementer absolument toutes les situations qui peuvent se dérouler pendant une course, toutes dans les détails les plus précis. Soit elle fait ça. Et d'ailleurs, c'est ce que demande Verstappen, que l'arrêt y ait plus de réglementation pour que ce soit plus clair pour les pilotes. Dans ce sens-là, il aurait raison, même s'il y a de la mauvaise foi de son côté, parce que lui, il estime d'être complètement dans son droit, hein. D'ailleurs, il a été violent envers Vettel. C'est comme il parle d'un champion du monde, c'est assez triste quand même. C'est assez irrespectueux encore une fois, en lui disant de retourner, enfin, c'est un gamin en gros, très frustré, et de retourner à l'école, apprendre à parler en gros. Enfin, c'est ce qu'il a dit. J'ai envie de dire, bon, calme-toi. Hein. Déjà, tu t'es pas trop fait d'amis dans le paddock. Et là, ça va pas en s'arrangeant là, pas du tout. Hein. Même s'il s'en fout, parce que bon, ils sont pas là pour se faire des amis les pilotes. Mais là, c'est pas la question de se faire des amis, c'est de se faire détester, hein, se faire détester sur le comportement en piste, hors piste. Peut-être qu'ils s'entendent bien avec Verstappen, c'est possible. Mais en piste, voilà, c'est pas possible. Hein, c'est absolument impossible. Donc voilà, soit la FIA fait ça. Mais selon moi, c'est impossible et c'est une utopie de prévoir toutes les situations de course. Mais la FIA va là-dedans, donc pourquoi pas? Selon moi, c'est pas possible, mais il faut en avoir. Soit elle abandonne ça, cette utopie, et sa manière de voir les choses en ce moment, qui justement, en plus, cette manière de voir les choses qui fait perdre des spectateurs à la F1, et encore pas mal, je pense. Qui rend la F1 compliquée à suivre, même parmi les spécialistes, hein, même parmi les pilotes, c'est dire. Alors que la F1, c'est hyper simple à comprendre normalement, mais là, ça a été rendu hyper compliqué avec l'hyper-réglementation dont la FIA fait preuve depuis pas mal d'années. Et en plus, ça apporte du négatif dans le sport, parce qu'il y a tous ces débats et tout, tout ce négativisme qui entre dans la F1, ça énerve les pilotes. Bref, c'est non, c'est très mauvais pour la F1. Il faut espérer que Liberty Media arrive à déceler ça très vite. Et moi, j'espère que ça sera plutôt ça. J'espère que ce sera plutôt cette solution qui sera envisagée, parce que je veux pas que la F1 devienne un sport où l'arbitrage est majeur. Déjà, il y est déjà trop présent à mon sens en ce moment. On parle beaucoup trop des décisions de la direction de course, et c'est pas bon. C'est pas bon du tout, je pense. Et en plus, comme cet arbitrage est lié à un règlement qui est très imparfait, eh bien ça donne lieu à des situations insensées, voire injustes, du point de vue de la course toujours. Et en plus, c'est des situations du coup insensées et injustes qui vont donner droit à encore plus de règlements. Et oui, parce que c'est obligé. C'est obligé, c'est comme là, Verstappen, il demande une réglementation plus claire, plus de règlements pour que ce soit plus clair. Parce que, il y a déjà eu un règlement. Il y a déjà un règlement, par exemple, pour l'histoire de couper les virages. Donc c'est censé, normalement, tout couvrir. Eh bien non, on voit que là, ça couvre pas tout, même si, à mon sens, il y a des explications, mais c'est vrai que c'est assez ambigu. Le règlement est ambigu. Et du coup, ça amène à réglementer encore plus. Donc là, on est dans le serpent qui se mord la queue, très clairement. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Hein. C'est un paradoxe, c'est-à-dire c'est n'importe quoi. C'est une boucle. On entre dans une boucle et on n'en sortira pas. On n'en sortira pas. Selon moi, la situation parfaite, c'est si on punit quasiment jamais les pénalités et qu'on punit simplement les choses graves. Si on fait ça, eh bien, ça aurait plus d'impact parce que les pénalités auraient plus de sens, ça aurait plus de sens pour tout le monde, pour les pilotes, les spectateurs et tout. Ça aurait plus d'impact, c'est-à-dire que les pilotes leur feraient pas deux fois. Et voilà, on mettrait pas dans le même niveau certaines manœuvres et d'autres trucs. Et surtout, on n'interviendrait pas sur la course. Ça, c'est... Ou bien s'ils veulent absolument pénaliser les trucs, qui s'inspirent de l'IndyCar, hein, très clairement. C'est-à-dire amende et points au championnat en moins. Je préfère plutôt que ça affecte la course. La course, c'est l'élément principal. Le championnat, ça découle de la course, mais voilà, bon, on s'en fout un peu. On regarde une course, on regarde pas un classement de championnat qui évolue. Donc bon, selon moi, c'est logique qu'on punisse plus sur le championnat. Mais bon, ce n'est pas le cas et je pense pas que la F1 rentre dans ça. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé durant le Grand Prix du Mexique. Je suis assez dubitatif en fait, je marque pas mal de petites pauses là au milieu de ce que je dis parce que... J'aime pas ces histoires-là. Est-ce que c'est intéressant à analyser? Oui et non, oui, parce qu'il faut le faire. C'est obligé pour expliquer un peu ce qui se passe. Mais... Si ça arrive trop souvent, c'est quelque chose qui pourrait quand même faire perdre pas mal de fans dans le monde entier. Parce que déjà, moi, je suis hyper passionné, mais quand je vois ça, ça me dégoûte, ça me débecte de voir ces histoires-là. Et j'en veux moins aux pilotes, parce que là, je peux sembler un peu, encore une fois, hyper critique envers Verstappen, mais c'est plus aux instances que j'en veux, plus qu'à Verstappen, en fait. Il y a trop de règlements. Du coup, des fois, on pénalise des choses pas très graves, mais qui sont inscrites dans le règlement. Mais les choses qu'on fait Verstappen et qui ne sont pas inscrites dans le règlement sont pas punies. Donc forcément, ça crée une incohérence très claire. Bon, maintenant c'est puni, mais ça apporte quand même une nouvelle incohérence. Voilà. Bon, c'est dire si voilà, ça prouve encore une fois que la logique de la FIA est la mauvaise. Cette logique de vouloir tout réglementer. C'est la mauvaise et il y a des preuves, ça énerve tout le monde et il faut arrêter là, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un grand chamboulement dans tout ça. Désolé, j'allonge le podcast, mais il y a tellement de sujets qui sont liés, c'est obligé, il faut en parler. Le mode de décision pour les règlements, où il faut que ce soit, je crois, à l'unanimité, mais c'est n'importe quoi, chaque écurie, en plus c'est les écuries qui sont partie prenante, chaque écurie... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. On n'avance pas. Il n'y a pas de grosse réforme du coup, et alors qu'il faudrait. Et en plus, de plus en plus de pilotes militent pour qu'il y ait des gros changements, mais ça ne vient pas. C'est compliqué. Maintenant, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi ça vous énerve, indépendamment d'être du même avis ou pas que moi, à propos de tout ça, à propos des incidents en eux-mêmes, mais... Est-ce que, voilà, je veux juste savoir si tout ce qui se passe autour du règlement, autour des pénalités, est-ce que vous, ça vous plaît tout ça? Ou est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que ça vous débecte? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir, ne plus voir en F1? Parce qu'avant, on n'y voyait pas. Alors, je vais pas aller dans le c'était mieux avant. Mais il y a des ajustements à faire, très clairement, je pense. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. À ce propos également. Je vous remercie et à la prochaine. Et en attendant le prochain podcast, comme d'habitude, vivons notre passion. À bientôt.